Bienvenue à cette nouvelle exploration en profondeur. Je suis vraiment fascinée par le sujet d'aujourd'hui parce qu'on s'attaque à un monument complètement invisible de notre quotidien numérique.
Salut. Ben oui, c'est un gros morceau. C'est une technologie de l'ombre qui travaille des centaines, voire des milliers de fois par jour pour chaque personne connectée.
Et ça, sans jamais attirer l'attention. Aujourd'hui, on va décortiquer le DNS, donc le fameux système de nom de domaine.
Exact. Notre analyse se base sur une source vraiment riche, les notes de cours en administration de serveurs du professeur Gabriel Gaudreau.
Plus spécifiquement, la matière qui est couverte dans ses cours 7 à 10. Fait qu'il faut s'imaginer une seconde l'absurdité colossale que serait la navigation web sans cette mécanique-là.
Ah ben ça serait l'enfer.
Totalement. S'il fallait mémoriser une séquence numérique super complexe, tu sais, une adresse IP juste pour la moindre petite action en ligne.
Genre une suite de chiffres interminables juste pour accéder au portail Omnivox d'un cégep.
Ou une autre séquence complètement différente pour ouvrir un réseau social, puis encore une autre pour interroger ChatGPT. Le cerveau humain est juste pas câblé pour retenir autant de données numériques aléatoires.
Surtout quand on regarde les chiffres récents. En 2022, la planète comptait près de 2 milliards de sites web pour plus de 5 milliards d'internautes.
C'est un océan de connexions, c'est pas impossible à naviguer manuellement.
Fait que l'analogie classique qu'on entend souvent dans le milieu des TI, pour expliquer ça, c'est celle du répertoire d'un téléphone cellulaire.
Ah oui, la fameuse liste de contacts.
C'est ça. On a collectivement perdu l'habitude de mémoriser les numéros de téléphone. On cherche un nom, on appuie dessus, puis l'appareil gère la traduction numérique en arrière-plan.
Dans le fond, le DNS, c'est exactement le même principe. C'est l'annuaire téléphonique de l'Internet.
Mais l'objectif de notre discussion aujourd'hui, c'est pas de s'arrêter à cette simple métaphore-là. On veut vraiment soulever le capot de la machine.
On veut comprendre la mécanique complexe qui permet à cette traduction de s'effectuer en une fraction de milliseconde à l'échelle planétaire.
Puis surtout, on va examiner la fragilité de cette infrastructure-là, parce que sa sécurisation est devenue un enjeu mondial absolument critique.
Bon, avant même de parler de traduction, il faut s'entendre sur la façon dont les machines s'identifient sur un réseau. C'est la base de la nomenclature.
Ce que les notes de cours appellent le FQDN.
Oui, le Fully Qualified Domain Name ou nom de domaine pleinement qualifié. La façon la plus simple de l'aborder, c'est de faire le parallèle avec l'identité humaine. C'est un prénom puis un nom de famille.
Ouais, c'est une bonne façon de le voir. Le nom d'hôte agit comme le prénom. Il désigne une machine bien précise, un individu.
Puis le nom de domaine agit comme le nom de famille, donc il indique l'appartenance à un groupe ou à une organisation. L'exemple tiré des notes du professeur Gaudreau est super parlant.
L'exemple du poste au cégep.
Exact. Si on prend un ordinateur spécifique, disons le poste numéro 07, qui est situé dans le local D0226 au cégep Égouard-Montpetit.
Son identité propre, son prénom, dans le fond, ça va être une nomenclature logique comme D0226-07.
Puis son nom de famille, le domaine auquel il est rattaché, c'est cégepmontpetit.ca.
L'assemblage des deux formes, le FQDN complet, donc D0226-07, .cégepmontpetit.ca. Ça laisse aucune place à l'ambiguïté sur le réseau.
Ce qui est fou quand on fouille dans l'histoire de cette nomenclature-là, c'est l'ancêtre du système DNS actuel.
Ce qui est fascinant ici, c'est qu'avant d'avoir une infrastructure mondiale complexe, il y avait une méthode beaucoup plus primitive. Puis le plus étonnant, c'est qu'elle est toujours active aujourd'hui.
L'étape numéro un absolue.
Oui, l'étape 1 de toute résolution de nom sur un ordinateur, c'est la consultation d'un banal petit fichier texte qui s'appelle HOSTS, H-O-S-T-S.
C'est fou pareil. Ce fichier-là est enfoui dans les répertoires de chaque système d'exploitation, que ce soit Windows, macOS ou Linux.
C'est un simple document qui liste manuellement des noms associés à des adresses IP. Et la règle d'or, c'est que ce fichier local appréhende sur tout le reste.
Fait qu'avant même d'envoyer la moindre question sur Internet, l'ordinateur vérifie ce fichier-là en premier.
Exactement. Si l'information s'y trouve, le processus s'arrête là, la connexion s'établit.
Mais c'est là que le système finit inévitablement par craquer face à la réalité moderne. S'il y a plus de 2 milliards de sites web en activité, comment on pourrait maintenir un fichier texte à jour localement?
C'est mathématiquement impossible.
S'il fallait qu'un système central pousse une mise à jour de ce fichier HOSTS vers les ordinateurs de 5 milliards d'utilisateurs chaque fois qu'un seul petit site change de serveur...
L'infrastructure entière s'effondrerait. Le volume de trafic réseau généré juste par la distribution de ces mises à jour paralyserait l'Internet au complet.
C'est un goulot d'étranglement logistique insurmontable.
C'est ce mur d'échelle-là qui a forcé la création du DNS tel qu'on le connaît aujourd'hui. On est passé d'un petit calepin d'adresses statiques à un système de requêtes hiérarchique dynamique.
Une vraie course à relais informatique.
Qui se déroule en plusieurs étapes, généralement 7, puis qui doit s'exécuter en moins de temps qu'il n'en faut pour cligner des yeux.
Bon, décortiquons tout ça. Suivant le cheminement d'une requête typique.
Ouais.
Quand on tape une adresse super banale, comme www.patate.com dans un navigateur.
La première étape, on va l'établir, c'est la vérification du fichier host.
L'adresse n'y est pas. On passe à l'étape 2.
L'étape 2, c'est la mémoire cache locale. L'ordinateur vérifie sa propre mémoire à court terme pour voir s'il n'a pas déjà effectué cette recherche-là récemment.
Et les notes de cours soulignent un point technique vraiment intéressant ici. Cette mémoire cache locale, c'est souvent la source de problèmes de connexion assez frustrants.
Ah oui, absolument. Si un site web migre vers un nouveau serveur avec une nouvelle adresse IP, mais que l'ordinateur s'entête à utiliser l'ancienne adresse stockée dans sa cache...
Le site devient inaccessible pour cet utilisateur-là.
C'est la raison pour laquelle la commande de vidage de cache, le fameux ipconfig flush DNS sous Windows, c'est un des premiers réflexes en dépannage réseau.
Vraiment. Mais disons que la cache de l'ordinateur est vide. On entre dans la phase réseau. L'étape 3 consiste à envoyer la requête au redirecteur DNS local.
Dans un contexte résidentiel normal, ce rôle-là est presque toujours assumé par le modem routeur fourni par la compagnie de télécommunications.
Et ce routeur possède lui aussi sa propre mémoire cache. C'est possible qu'un autre appareil sur le même réseau de la maison ait visité ce site-là plus tôt.
Ce qui permettrait d'avoir la réponse immédiatement. Mais si le routeur sèche, lui aussi, il délègue le travail à l'étape 4, le serveur DNS du fournisseur de services Internet.
C'est ce qu'on désigne sous le nom de serveur DNS récursif. Et là, il y a une distinction capitale à faire concernant la nature de ces requêtes.
Le concept de récursivité contre itérativité. C'est fondamental.
Quand l'ordinateur interroge son routeur ou quand le routeur interroge le fournisseur Internet, c'est une requête de type récursif.
Le message sous-jacent, c'est essentiellement « j'ai besoin de la réponse finale, l'adresse IP exacte et je refuse de faire le travail de recherche moi-même. J'attends. »
Le fardeau de la recherche est entièrement repoussé vers le haut de la chaîne.
Exact. Mais à partir de cette fameuse étape 4, le serveur du fournisseur Internet, lui, va devoir se salir les mains. Il va employer des requêtes de type itératif.
Le fonctionnement itératif est beaucoup plus accommodant dans le fond. Le serveur dit « Si tu n'as pas l'adresse IP finale pour moi, donne-moi au moins une piste. »
Indique-moi le prochain serveur à interroger pour me rapprocher du but.
Cette quête d'indices nous amène directement à l'étape 5, qui est probablement la plus méconnue du grand public.
Si on relie ça à une vision plus globale, le serveur récursif va s'adresser au serveur DNS racine. C'est le sommet absolu de la hiérarchie mondiale.
Visuellement, cette racine-là est représentée par un point situé à l'extrême droite d'un nom de domaine. Un point qui est toujours sous-entendu, même si les navigateurs le masquent aujourd'hui.
L'architecture de ces serveurs racines est assez singulière. L'ensemble de l'Internet mondial dépend des informations gérées par un petit groupe de 13 organisations de très haut niveau.
Des entités qui incluent des universités, mais aussi des instances gouvernementales comme le Département de la Défense des États-Unis et la NASA.
C'est un fait assez surprenant.
Le fait que la NASA puis la défense américaine soient des acteurs incontournables pour que quelqu'un puisse simplement afficher une page web de recettes de cuisine, c'est quand même une perspective frappante.
C'est historique. Donc, notre serveur récursif pose la question au serveur racine. Ce dernier, qui fonctionne en mode itératif, avoue ne pas connaître l'adresse IP exacte de patate.com.
Mais il redirige la requête vers l'autorité compétente.
Il pointe vers le serveur responsable de tous les domaines se terminant par .com. C'est l'étape 6.
On consulte ce serveur de haut niveau, le TLD pour Top Level Domain. Et le TLD, à son tour, fournit le dernier indice. On arrive à l'étape 7.
Il donne l'adresse du serveur DNS autoritaire. Ce serveur final, le ANS pour Authoritative Name Server, c'est lui qui détient la véritable réponse.
C'est la seule source de vérité incontestable pour le domaine spécifique qu'on recherche.
Toute cette longue chaîne de délégation permet de comprendre pourquoi les systèmes de mémoire cache, dont on a parlé au début, sont vitaux.
Une fois que le serveur récursif obtient la réponse finale de l'autorité, il l'enregistre dans sa propre cache avant de la retransmettre au routeur.
Le routeur fait la même chose avant de l'envoyer à l'ordinateur, qui la met également en cache.
Les statistiques fournies dans la documentation pour l'année 2020 faisaient état de 10 à 15 milliards de requêtes DNS quotidiennes à l'échelle mondiale.
C'est astronomique. Ces systèmes forçaient chaque requête individuelle à remonter jusqu'au serveur racine pour ensuite redescendre toute la hiérarchie.
L'engorgement serait complètement instantané. Sans ce principe de mise en cache massive et décentralisée, la latence rendrait le web complètement inutilisable.
Ça tournerait au ralenti de manière catastrophique.
Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire au juste quand on arrive finalement à ce serveur autoritaire, la fameuse source de vérité? Comment l'information y est-elle réellement structurée?
Les notes du professeur Gaudreau expliquent que le serveur organise ses données dans des zones de recherche, qui fonctionnent un peu comme des registres ou de petites bases de données.
À l'intérieur de ces zones-là, on retrouve différents types d'enregistrements très spécifiques. Évidemment, il y a le type fondamental, l'enregistrement A,
dont le seul travail est d'associer un nom à une adresse IP classique de format IPv4. L'enregistrement A, c'est le pilier historique.
Mais avec l'épuisement mondial des adresses IPv4, on voit l'importance croissante de son évolution. L'enregistrement de type AAAA avec 4 A qui gère les adresses de nouvelle génération IPv6.
Au-delà de ces traductions directes, les administrateurs réseau s'appuient énormément sur l'enregistrement de type CNAME.
Au lieu de pointer vers une adresse numérique, le CNAME permet de créer des alias. Il fait pointer un nom vers un autre nom.
C'est extrêmement utile pour simplifier la gestion d'infrastructures. Par exemple, quand plusieurs services différents, comme le web et le FTP, sont hébergés sur la même machine.
Le matériel aborde aussi l'enregistrement de type TXT, qui sert à insérer des chaînes de texte libre dans la zone DNS.
Aujourd'hui, on ne l'utilise pas pour laisser des petits noms sympathiques. C'est principalement pour des questions de sécurité.
Surtout pour inclure des clés de vérification qui prouvent qu'un serveur a la légitimité d'envoyer des courriels au nom du domaine. Ça aide énormément à combattre les pourriels.
Et dans tout ce formalisme technique, il y a un petit détail historique fascinant. Lors de la configuration de ces enregistrements, on doit souvent spécifier la classe.
Oui, aujourd'hui, on utilise universellement la classe IN, qui signifie simplement Internet.
C'est le seul vestige d'une époque lointaine de l'informatique où les créateurs du système prévoyaient de devoir supporter de multiples architectures de réseaux concurrentes.
Internet a gagné la guerre et toutes les autres classes sont devenues des reliques obsolètes.
Il y a un autre enregistrement qui illustre bien les compromis techniques des premiers jours de l'Internet. C'est l'enregistrement SOA pour Start of Authority.
L'analyse de ce bloc d'information est vraiment cruciale. C'est le point de départ administratif obligatoire d'une zone DNS.
Il dicte des paramètres vitaux comme l'identité du serveur principal et les durées de vie des caches. Il doit aussi inclure l'adresse courriel de l'administrateur du domaine.
Et c'est là qu'il y a une particularité amusante avec la syntaxe du fichier de zone.
Le symbole A commercial, le fameux arrobas utilisé dans les courriels, sert déjà de raccourci technique pour désigner le nom de la zone elle-même.
Donc, pour contourner ce conflit, les concepteurs ont instauré une règle qui oblige à remplacer le A commercial par un simple point.
Fait qu'une adresse comme admin@commercialexemple.com doit être formatée sous la forme admin.exemple.com suivie d'un point final.
C'est le genre de bricolage logiciel qui finit par devenir un standard industriel permanent. C'est assez classique en informatique.
Jusqu'à maintenant, on s'est concentré sur la recherche d'une adresse IP à partir d'un nom de domaine.
Mais le cours numéro 9 introduit une mécanique qui fait exactement l'inverse, les zones de recherche inversées.
Le DNS ne sert pas qu'à trouver une IP. En utilisant un enregistrement spécifique appelé PTR, pour pointeur, le système fait l'inverse absolu.
Il permet de découvrir le nom de la machine à partir de son adresse IP en se basant sur le dernier octet de l'adresse du client.
C'est un outil de détective redoutable pour fouiller dans les journaux de connexion et identifier formellement les visiteurs d'un réseau.
L'exploration de ces zones-là et l'interrogation de ces différents serveurs nécessitent des outils de diagnostic quand même précis.
Du côté des environnements Windows, l'outil classique mentionné dans les cours, c'est NSLOOKUP.
C'est souvent en utilisant cette commande-là qu'on voit s'afficher la fameuse mention « réponse ne faisant pas autorité ».
Ce qui signale simplement que l'adresse IP fournie provient d'une mémoire cache intermédiaire et non du serveur autoritaire final qu'on a vu à l'étape 7.
On trouve aussi la commande resolve-name via PowerShell pour des diagnostics un peu plus modernes sous Windows.
Et dans l'univers Linux, c'est l'outil DIG qui domine. Mais l'approche de DIG est radicalement différente.
Par défaut, il déverse une quantité astronomique d'informations techniques à l'écran. Il affiche tous les détails de la requête, les temps de réponse, les drapeaux de statut.
Pour quelqu'un qui cherche juste une simple adresse IP, on est vite noyé sous les données.
C'est pour ça que les notes de cours recommandent l'utilisation de commutateurs très précis pour dompter l'outil.
Comme le paramètre plus short ou encore une combinaison de plus no all suivi de plus answer pour forcer le terminal à ne recracher que l'information pertinente sans le bruit de fond.
C'est ici que ça devient vraiment intéressant au niveau de l'architecture. Cette complexité dans l'administration nous amène à un enjeu majeur abordé dans les cours.
La redondance et la répartition de la charge de travail. Le DNS est tellement vital qu'un seul serveur ne suffit absolument pas.
Un système critique comme l'annuaire de l'Internet ne peut pas souffrir d'un point de défaillance unique. L'architecture d'une zone exige donc une hiérarchie stricte.
Il y a un serveur défini comme primaire qui est le seul autorisé à modifier les enregistrements de la zone. Ensuite, il y a des serveurs secondaires qui sont des copies en mode lecture seule.
Et leur mission, c'est d'encaisser le volume massif de requêtes du public.
Le maintien de la synchronisation entre ce serveur primaire et les serveurs secondaires se fait via des transferts de zones.
La mécanique repose sur un concept de numéro de série, le serial, qui est configuré dans l'enregistrement SOA dont on parlait tantôt.
Chaque fois qu'un administrateur fait une modification sur le serveur primaire, ce numéro de série est incrémenté.
Les serveurs secondaires vérifient périodiquement ce numéro. S'ils constatent qu'il est plus élevé que le leur, ils initient un téléchargement de la nouvelle version. Les sources mentionnent aussi qu'il existe des méthodes plus réactives où le serveur primaire envoie proactivement des notifications sur le réseau pour annoncer qu'un changement vient d'avoir lieu.
Ça évite d'attendre le délai de vérification habituel basé sur le temps.
Cette multiplication des serveurs soulève un contraste amusant sur la façon dont les systèmes d'exploitation choisissent à quel serveur s'adresser.
Les philosophies divergent grandement ici. Windows garde le secret sur l'algorithme exact de son processus de sélection.
L'hypothèse admise, c'est que le système privilégie le serveur offrant le temps de réponse le plus rapide, mais ça reste une boîte noire.
Sous Linux, l'approche permet plus de contrôle. Un administrateur peut forcer une méthode de rotation de charge de travail de type round-robin qui distribue chaque requête à un serveur différent.
Par contre, même sous Linux, la complexité de cette configuration fait que la recommandation standard reste le mode par défaut, le fallback, parce qu'il est beaucoup plus intuitif et robuste.
Tous ces efforts de redondance garantissent la disponibilité, mais il y a un côté sombre très sérieux abordé dans les notes, c'est la sécurité.
C'est vrai que le DNS est une infrastructure qui a été fondée initialement sur la confiance, ce qui en fait une cible de choix pour des cyberattaques.
L'un des vecteurs les plus directs, c'est le DNS hijacking. Ça vise directement le client.
La méthode implique la création d'un faux serveur DNS par un pirate. L'exemple frappant des sources, c'est le piège classique du réseau Wi-Fi gratuit non sécurisé.
Lorsqu'un appareil s'y connecte, le routeur compromis lui assigne l'adresse du faux serveur DNS. À partir de là, l'attaquant contrôle la navigation.
Si la personne tape l'adresse de sa banque, le faux DNS répond avec l'adresse IP d'un serveur malveillant qui héberge une copie visuellement parfaite du site bancaire.
C'est l'attaque de type « man in the middle ». Les identifiants sont volés dès qu'ils sont saisis.
C'est inquiétant à l'échelle individuelle, mais le cours décrit une menace d'une autre ampleur avec le DNS poisoning, l'empoisonnement.
Ici, l'attaque vise la mémoire cache de serveur DNS légitime par inondation, ce qu'on appelle le « flooding ».
L'attaquant force le serveur ciblé à chercher une adresse et avant que le véritable serveur autoritaire réponde, l'attaquant bombarde le réseau de fausses réponses forgées.
Si le serveur accepte une de ces fausses réponses, son cache devient corrompu. Et là, il distribue la mauvaise adresse IP à tous les ordinateurs qui la demandent.
On parle de milliers de victimes d'un coup. Cela soulève une question importante. Comment on s'en prémunit?
C'est là qu'intervient la technologie DNSSEC. Le principe, c'est d'apposer des signatures numériques basées sur la cryptographie directement sur les enregistrements.
Pour empêcher toute modification non autorisée, si la signature ne correspond pas, le serveur récursif rejette la réponse comme étant frauduleuse.
Et pour les transferts entre serveurs primaires et secondaires, on utilise la signature des transactions pour authentifier la provenance.
Par contre, l'ajout de calculs cryptographiques sur chaque requête ajoute une charge de traitement énorme. C'est un équilibre délicat entre sécurité et vitesse d'exécution.
En synthèse, quand on regarde toute cette complexité cachée derrière un geste aussi banal que naviguer sur le web, c'est fascinant.
Le processus combine des répertoires locaux, des requêtes récursives, des hiérarchies mondiales strictes et un jeu constant du chat et de la souris avec la cybersécurité.
L'adware de web est vraiment un écosystème vivant.
Ça amène une pensée provocatrice pour clore la discussion. Sachant que le sommet absolu de cette hiérarchie, les serveurs racines vus à l'étape 5, dépend d'une poignée d'institutions souvent liées à des intérêts gouvernementaux ou militaires américains.
Il y a de quoi se demander à qui appartient réellement la carte d'Internet.
Si des tensions géopolitiques majeures venaient à fracturer cette entente de confiance mondiale, la résolution des noms de domaine pourrait-elle devenir la prochaine grande arme de censure ou de cyberguerre à l'échelle planétaire? C'est une piste de réflexion à creuser par soi-même pour quiconque se passionne pour l'apprentissage de notre univers numérique.